On commence ce marathon de prière avec toutes les communautés de Moutier. Et puis, j'avais déjà abordé le sujet de la prière récemment, avec un petit survol de ce qu'on appelle le Notre Père. Et j'aimerais continuer ce matin, commencer avec encore une petite citation de ce livre dont je vous parle beaucoup. Je suis content, j'en ai trouvé deux exemplaires, je croyais qu'on ne le trouvait plus d'occasion, d'Henri Nouwen sur la prière, et il dit ceci: « La prière est le centre de la vie chrétienne, c'est la seule chose nécessaire », il se réfère à la parole de Jésus à Marie, et puis il dit « C'est vivre avec Dieu ici et maintenant hein ». La prière, c'est vivre avec Dieu ici et maintenant. Donc pour certains d'entre nous, le plus difficile quand on dit le mot « prière », c'est de sortir ce qu'on a mis dans la boîte. Vous savez que les mots, c'est comme des boîtes, et chacun met des choses dedans, mais des fois, on utilise les mêmes mots, mais il n'y a pas la même chose dans la boîte. Et puis, si on a grandi dans des églises où la prière, c'était des longues listes de courses, où chacun disait à Dieu ce qu'il avait besoin pour la journée, pour la semaine et pour le mois, et que c'était uniquement ça, et qu'en plus, cette liste, elle se répétait parce que chacun devait répéter la même liste, c'est un mot qui est assez effrayant. Ou si on l'a vécu parce qu'on nous a obligés à prier à genoux et puis c'était long, ou à prier devant tout le monde alors qu'on n'aimait pas ça. Toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément mauvaises si elles sont faites par quelqu'un qui a choisi de les faire parce qu'il comprend pourquoi, sont quand même assez loin de ce que peut être la prière. Et on va continuer un petit peu dans cette réflexion-là. Et j'ai été très touché par un autre texte de ce livre qui ramenait un passage des Écritures que je vais vous lire. C'est une toute petite parabole de Jésus qui parle du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, c'est synonyme. Dans Matthieu 13, 44, Jésus dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. » Dans ces deux mini-paraboles qui sont très très courtes, il y a une idée qui est la même. Quelqu'un trouve quelque chose qui a une grande valeur et pour pouvoir se le payer, il part et puis il va vendre tout ce qu'il avait pour le racheter. Mais dans la première des paraboles, c'est intéressant parce qu'il dit donc que l'homme qui l'a trouvé le cache. On aurait pu penser, il prend le trésor, il s'en va avec, ou alors il va acheter le champ, mais il le prend. Non. Il cache et puis il achète le champ. Et le trésor est dans le champ. Et je n'avais jamais réfléchi un peu en détail à ça, jusqu'à ce que je lise cette petite pensée qui est très très riche et sur laquelle on va travailler ensemble en fait ce matin. On va faire des petits groupes et puis j'ai préparé des questions, puis vous allez réfléchir vous aussi. Tu as trouvé un trésor, le trésor de l'amour de Dieu. Tu sais maintenant où il se trouve, mais tu n'es pas encore prêt à en prendre pleine possession. Trop d'attachements te retiennent. Pour prendre pleine possession de ton trésor, il faudrait le cacher dans le champ où tu l'as trouvé, aller joyeusement vendre tout ce que tu possèdes et revenir acheter le champ. Tu as bien raison d'être content d'avoir trouvé le trésor, mais il ne faut pas avoir la naïveté de croire que tu le possèdes déjà. Le fait d'avoir trouvé le trésor te lance à nouveau à sa recherche. La vie spirituelle est une quête longue et souvent laborieuse de ce qu'on a déjà trouvé. On ne peut chercher Dieu que si on l'a déjà trouvé. Le désir de l'amour inconditionnel du Dieu vivant vient de ce qu'on a été touché par cet amour. La découverte du trésor n'est que le début de la recherche. Un nouvel amour, il faut le cultiver dans le calme et l'intimité. Trop de lumière et de bruit et il meurt. Trouver le trésor sans être prêt à se l'approprier pleinement provoque chez toi de l'agitation. C'est l'inquiétude de la quête de Dieu. C'est la route de la sainteté. C'est le chemin du royaume. C'est l'itinéraire qui mène au lieu de ton repos. Voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce texte. Il est très, très dense. Hein. Mais la première chose qui m'a interpellé, c'est on ne peut chercher Dieu que si on l'a déjà trouvé. Et dans les églises évangéliques comme la nôtre, on donne une importance énorme à ce qu'on appelle la conversion ou la nouvelle naissance, ou enfin, appelez-le comme vous voulez. Mais derrière ce mot, ça décrit une expérience qui est un jour, on a eu cette conviction que Dieu est réel, qu'il existe, ou qu'on l'a rencontré, on peut dire. Enfin, chacun a son vocabulaire, mais ça parle d'une même chose. Hein, voilà. Dieu existe. J'en étais pas sûr, ou je savais pas, ou je le pensais, ou je le pensais pas, mais à un moment, j'arrive à cette conviction qui peut être accompagnée de doutes, hein, mais ben, Dieu est là. Hein. Et en fait, on va découvrir Dieu et son amour et ses pensées, mais on va passer le reste de nos vies à le chercher. Hein. Et puis trop souvent, nous, on s'arrête à ça. Ben voilà, Dieu existe et maintenant, je vais travailler pour lui. Hein. Parce que comme je le dis souvent, les protestants se moquent des catholiques en disant « Ouais, ils font des œuvres pour acheter leur salut, mais les protestants ont eu leur salut à crédit et ils passent leur vie à le rembourser. » Donc c'est la même chose. Hein. Dans les deux cas, on travaille pour... Et c'est pas de ça qu'il est question. En fait, Dieu nous cherche, Dieu nous aime, Dieu veut nous connaître. Et à un moment, parce qu'on y est consentant, parce qu'on n'est pas obligé, hein, et c'est là qu'il y a ce mystère de cette rencontre entre le consentement de l'être humain et puis Dieu qui cherche les hommes, et il se passe ce petit éclair, cette petite lumière, ce début que voilà, on appelle de plusieurs noms, mais qui est « Ah, ouais, maintenant oui, je crois. Hein. Est-ce que Dieu existe? Je ne sais pas, mais je le crois. Hein, voilà. Je ne peux pas le prouver, mais je le crois. » Et puis... Ben, si on s'arrête là, et puis ben là, voilà, ben, un jour on ira au ciel, quand on mourra, au lieu d'aller griller sur des broches avec le jus qu'on remet dessus, vous savez, là, on sera dans un endroit où on a des petites robes blanches, des ailes et puis des harpes. Ouais, bof. Et en attendant, ben, on va faire des choses pour ce Dieu-là, quoi. Mais c'est pas de ça que Jésus parle. Hein. Et j'ai aimé ce texte parce qu'il y avait cette idée de okay, j'ai trouvé ce trésor, je sais qu'il est là, et en même temps. Pour l'acquérir, il faut que je laisse d'autres choses. Pas pour le payer, hein, mais juste parce que vous savez, si vous avez un récipient, quel qu'il soit, que ce soit un verre, une piscine ou un dé à coudre, s'il est plein de quelque chose, on ne peut pas le remplir d'autre chose. Donc pour le remplir de quoi que ce soit, il faut enlever ce qu'il y avait déjà dedans. Et ça, c'est le travail de toutes nos vies, où Dieu va enlever des choses juste pour faire de la place, pour mettre dedans. Hein. La fausse compréhension, ça serait que je dois enlever des choses pour mériter que Dieu me donne quelque chose. Et ça, c'est pas vrai, puisque c'est un amour inconditionnel. Mais en même temps, penser que puisque l'amour de Dieu est inconditionnel, il n'y a rien de ma part à faire pour en être rempli, bah, c'est pas très malin, et puis surtout, c'est faux. Donc, il y a tout ce travail qui va durer sur toute notre vie, et ça me ramène à cette citation de Christian Bobin, qui était hier dans la liste des citations que les aînés ont eues. Hein. J'ai enlevé plein de choses inutiles de ma vie et Dieu s'est approché pour voir ce qui se passait.